Harlem Shake. Retrouve les podcasts des émissions sur Libradio, www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes en direct depuis la place des Grottes, derrière la gare ici à Genève, à l'occasion du repas solidaire péruvien qui a cours aujourd'hui, samedi 15, de midi jusqu'à 20h ce soir, et également demain, aux mêmes heures, de 12h à 20h. Ce repas solidaire péruvien va permettre de réunir un maximum de sous qui seront ensuite dévolus à des projets d'aide pour les populations locales au Pérou qui sont donc touchées par les inondations et les éboulements dont on a parlé tout à l'heure. Nous allons le plus rapidement possible faire le montage de ce podcast pour que le plus grand nombre puisse s'informer de ce qui s'y est passé et ce qui continue de s'y passer au Pérou. Et puis, nous ne saurions trop vous recommander, chers auditrices et auditeurs, de vous solidariser également en venant sur place, en rencontrant les personnes qui sont ici, et notamment Carmen, que l'on a eu à l'interview juste tout à l'heure, qui, elle-même, va essayer non seulement de conclure demain, parce que c'est quand même un gros travail, donc on peut juste venir aussi filer un coup de patte demain pour leur gars, pour le rangement, le nettoyage, ici à la Maison Verte, et également pour des prochaines soirées de soutien, de solidarité avec le Pérou. Voilà. Alors, nous avions maintenant en tête de faire différentes choses, mais ce que l'on va choisir de faire au bout du compte, c'est un petit papier qui contient quelques considérations de géopolitique, hein, mais voilà, sur un ton un petit peu détaché comme ceci. Alors, l'idée, c'était de l'appeler, c'est l'escalade à Pâques, puisqu'il s'agit bien d'escalade, d'une nouvelle escalade militaire, pourrait-on dire, ou en tout cas de tension, hein, qui ont cours actuellement, si l'on suit un petit peu l'actualité politique qui nous entoure. Alors, l'armée américaine a annoncé jeudi 13 avril, donc il y a de cela deux jours, avoir largué la bombe nommée GBU-43B, connue sous l'acronyme MOAB, qui signifie Massive Ordnance Air Blast, et qui est également connue sous le rétro-acronyme MAIR, Mother of All Bombs, donc la mère de toutes les bombes, sur un ensemble de tunnels de l'organisation djihadiste État islamique dans l'est de l'Afghanistan. Donc, les États-Unis ont utilisé leur bombe nucléaire la plus puissante qui existe contre ces positions de l'État islamique en Afghanistan ce jeudi, dans un contexte de tensions croissantes, notamment également avec la Corée du Nord. Cette opération pose effectivement de nombreuses questions. Alors, en ce qui concerne ce largage, nous allons revenir là-dessus et nous allons le mettre en perspective avec ce qui se passe également en Corée du Nord où, comme tu le sais certainement, eh bien, les États-Unis sont en train d'envoyer sur place un parmi leurs 10 gros porte-avions nucléaires. Donc, ce sont des espèces de machines incroyables et évidemment que ce n'est jamais un porte-avions qui part seul, mais quand un porte-avions s'en va, il est accompagné de destroyers, de croiseurs lance-missiles, enfin de plein de choses comme ça. On voit qu'il y a une sorte d'escalade là où on pensait que, ou en tout cas, lorsque l'on avait écouté le président Trump, il s'agissait justement de faire une désescalade et de faire un non-interventionnisme. On s'aperçoit que, eh bien, voilà, les paroles, si les écrits restent, les paroles, elles, en tout cas, sont rapidement remises en question. Alors, de la fumée dans la montagne après une attaque aérienne américaine lors d'une opération contre l'EI dans le district de Kot, province de Nangarhar, le 16 février 2017. Les États-Unis ont largué jeudi contre le groupe État islamique en Afghanistan la plus puissante bombe nucléaire qu'ils aient jamais employée, surnommée la mère de toutes les bombes, pour la plus grande fierté du président américain, dont on cite les mots « Je suis tellement fier de nos militaires, c'est un nouveau succès », a déclaré Donald Trump. La presse, je leur ai donné, je cite, carte blanche. Franchement, c'est pour cela qu'ils ont autant de succès ces derniers temps. Si vous comparez ce qu'il s'est passé ces 8 dernières semaines et ces 8 dernières années, vous verrez qu'il y a une énorme différence, a-t-il ajouté. Voilà, pour le va-t-en-guerre Trump. La frappe avec la bombe GBU-43, représentant environ 11 tonnes de TNT, donc 11 000 kilos de TNT, a visé vers 14h30 GMT une série de grottes dans la province de Nangarhar, qui se trouve dans l'est de l'Afghanistan, où un soldat américain a été tué dans une opération contre les djihadistes le week-end dernier. Cette énorme bombe guidée par GPS, longue de plusieurs mètres et larguée par la porte arrière d'un avion de transport C-130, n'avait jamais été utilisée au combat auparavant. Elle a été lâchée en soutien aux forces afghanes et américaines opérant dans la région, selon le Pentagone. Voilà, qui est une référence majeure, bien entendu. Voilà. Alors, à cela, nous voulions justement faire résonner ce déplacement du porte-avions. Mais avant cela, nous allions... Voilà, il s'agissait de préciser voilà, de lourdes pertes. Oui, parce que voilà, les chiffres se succèdent, mais changent, bien entendu. Alors, de lourdes pertes auraient été infligées à l'ennemi, a relevé le porte-parole de la présidence afghane. Et puis, le capitaine de vaisseau, Bill Salvin, qui est le porte-parole des forces américaines en Afghanistan, a indiqué n'avoir aucune raison de penser que des civils étaient présents au moment de l'explosion. Ouf, tout va bien, on a juste massacré plein de gens et puis on a un peu tout dévasté. Mais les civils, eux, ont été... Enfin, en tout cas, c'est dans ce sens que va la déclaration. Les civils ont été épargnés. Le général John Nicholson, qui commande les forces américaines en Afghanistan, a estimé que cette bombe était la bonne munition pour venir à bout des bunkers et des tunnels de plus en plus utilisés par les djihadistes alors que leurs pertes augmentent. Tout ça dans ce contexte justement d'escalade, hein, là où on se disait effectivement en Europe, eh bien on paye le prix de cet interventionnisme forcené là-bas, eh bien on paye le prix avec des attentats, des choses comme ça. Eh bien on voit qu'en fait ces mots qui ont tenu quelques semaines, eh bien sont d'ores et déjà démentis par les faits. Les soldats américains à Kaboul, le 1er mars 2007. Alors, la bombe est connue sous l'acronyme EAB, on l'a dit d'ores et déjà. Elle détonne juste avant de heurter le sol, créant une onde de choc destructrice. Hein, c'est le but de la manœuvre, c'est d'arriver à souffler tout ce qu'il y a autour. Et évidemment que ça fait caisse de résonance avec ce qui se passe, donc ces fameux souterrains. Le panache a été visible à 32 km à la ronde. Et selon Hans Christensen, expert de la Fédération des scientifiques américains spécialisé dans la surveillance de l'arsenal militaire américain, elle a une puissance égale à environ 1/30 de la plus petite bombe nucléaire américaine actuelle qui s'appelle la B-71-12. Elles ont toutes des petits noms assez sympas. Hein. Voilà, que dire de plus ? L'OTAN a récemment estimé que 600 à 800 combattants de l'EI se trouvaient dans le pays, contre 3000 au début 2016, que le groupe djihadiste a revendiqué plusieurs attentats en Afghanistan ces derniers mois, dont la sanglante attaque contre le plus grand hôpital militaire du pays en mars à Kaboul. Mais les autorités mettent cette dernière revendication en doute et en attribuent la responsabilité aux talibans. Les États-Unis ont déployé environ 8400 soldats en Afghanistan. Ils forment, conseillent et appuient les forces afghanes dans leur combat contre les talibans et le groupe État islamique. Le général américain Joe Votel, qui commande les troupes américaines au Moyen-Orient, s'est prononcé en mars pour un renforcement des troupes américaines, ce qui inverserait la tendance observée ces dernières années. Voilà, c'était juste pour en arriver au fait de dire qu'effectivement, lorsque l'on parle de désescalade, eh bien, il faudrait pour le moins que des actes aillent soit concomitants et soit convergence, ce qui n'est pas le cas. Nous voulions donc mettre ceci en parallèle de ce qui se passe en Corée du Nord, où des unités militaires étaient massées samedi à Pyongyang en vue d'une démonstration de force du régime nord-coréen à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord, dont le programme nucléaire est à l'origine des tensions internationales grandissantes. Alors, des centaines de camions à plateau remplis de soldats étaient ainsi alignés peu avant l'aube, hein, c'est du matin le coréen, le long des rives du Taedong, le fleuve qui traverse la capitale nord-coréenne, en vue d'un défilé à travers la ville. Outre la célébration du jour du soleil, hein, c'est le nom officiellement donné au jour de la naissance de Kim Il-sung, là aussi hein, on sent qu'on a quand même tout un égo et tout un truc d'apaisement et de calme, qui était donc le grand-père de l'actuel numéro 1 de Kim Jong-un. Donc son grand-père, hein, puisqu'on se passe aussi, il ne faut pas déconner non plus. Il s'agit pour ce pays communiste isolé sur la scène internationale d'adresser un message sans équivoque aux États-Unis, à la Corée du Sud et au Japon sur sa puissance militaire. Hein. Les mecs qui jouent les gros bras, c'est toujours assez impressionnant. Selon de nombreux observateurs, la Corée du Nord pourrait profiter de cette date anniversaire pour procéder samedi, aujourd'hui même, à un nouveau tir de missile balistique ou même à son 6e essai nucléaire. Tous deux interdits, bien entendu, par la communauté internationale. Le président américain Donald Trump a de son côté promis jeudi que le problème nord-coréen serait traité. Traité, voilà. Il n'en dit pas plus. Il avait auparavant annoncé l'envoi vers la péninsule coréenne d'un porte-avions. Porte-avions lui-même escorté par 3 navires lance-missiles, puis évoqué une armada comprenant également des sous-marins. Dans une déclaration diffusée vendredi par KCNA, l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, l'armée a quant à elle assuré que les bases américaines en Corée du Sud, tout comme les quartiers généraux du mal, c'est ainsi qu'il la désigne, telle que la présidence sud-coréenne à Séoul serait, et je cite, pulvérisée en quelques minutes en cas de guerre. On est vraiment dans une situation d'apaisement, on le sent, on sent que tout le monde est en train de se dire, on s'assied autour d'une table et puis on discute un coup. Le fameux porte-avions américain et sa flotte qui font route vers la péninsule coréenne, eh bien, c'est l'USS Carl Vinson qui est mis à disposition. Et il a été mis en route par mesure de précaution. Ça, c'est une déclaration du porte-parole et du commandant Dave Benham à l'AFP, en précisant que la menace numéro un dans la région reste la Corée du Nord en raison de son programme de missiles irresponsable, déstabilisateur et imprudent, et la poursuite de ses recherches en vue de disposer des armes nucléaires. Le groupe, juste pour préciser le truc, comporte le porte-avions Carl Vinson, comme on le disait, de la fameuse classe des porte-avions Nimitz, hein, c'est ces porte-avions géants et nucléaires qui, en fait, une fois qu'ils sont lancés, peuvent ne jamais revenir. Hein, ils sont autonomes pour toujours. Ils ont une petite centrale nucléaire, en fait, à l'intérieur. Hein. Évidemment, il est doté de son escadron aérien, de deux destroyers lanceurs de missiles et un croiseur lanceur de missiles. Alors qu'il devait initialement aller faire escale en Australie, il a pris la route du Pacifique Ouest depuis Singapour. Voilà, on va peut-être rappeler que la Corée du Nord a réalisé 5 tests nucléaires, dont 2 en 2016. Et plein d'autres choses qu'il faut que ça excite un petit peu tout le monde. Du coup, le Donald Trump en question, la colombe Donald Trump, autoproclamé, lance des menaces, bien entendu. J'ai dit vendredi, la présidence américaine et son homologue chinois ont longuement discuté en Floride, dans la résidence privée du nouvel hôte de la Maison-Blanche. Et Trump aurait demandé à son visiteur de faire pression sur Kim Jong-un pour que celui-ci cesse son programme d'armement nucléaire. Alors, voilà, on va... Les États-Unis sont bien entendu prêts à agir seuls par rapport à ça, mais là, je vais passer toute une série de considérations justement quant à cette rencontre et aux déclarations vraiment qui mènent à l'escalade, pour en rigoler, hein, pour terminer ce jour de Pâques comme il le faut, c'est-à-dire dans l'apaisement, la paix et puis la gaieté. En revenir justement sur cette fameuse résidence d'été du président américain Donald Trump, parce que c'est assez marrant. Le président américain Donald Trump, son fils Barron et sa femme Melania sortent d'Air Force One à Palm Beach, en Floride, pour se rendre dans leur résidence privée. Partageant leur vie entre New York, Washington et leur palace en Floride, les membres de la très médiatique famille Trump mettent à rude épreuve les agents chargés de leur sécurité rapprochée. Cortège de lourds véhicules aux vitres fumées, tour à Manhattan gardée 24/24, la fameuse tour Trump, hein. Week-end répété à faire décoller le Boeing Air Force One, protection des 5 enfants du président, la facture de cette énorme prise en charge est bien entendu confidentielle, mais elle est salée. Tiens donc, la personnalité de Donald Trump qui se vante d'agir sans prévenir complique les choses. Avec un président, là je cite, avec un président qui ne correspond pas au modèle typique du président des États-Unis, davantage d'agents sont nécessaires. Fin de citation, explique à l'AFP James Rees, un ancien officier des forces spéciales devenu expert en antiterrorisme. Je cite à nouveau, ils ont besoin de récupération planifiée pour maintenir leur niveau d'alerte maximum. Fin de citation. L'éclatement géographique de la famille aggrave les difficultés. L'épouse de Donald Trump, Melania, continue d'habiter dans leur triplex new-yorkais avec leur jeune fils, Barron. C'est génial parce que c'est vraiment l'histoire de la famille, c'est Dallas, enfin, je sais pas, c'est une petite série comme ça, c'est Friends. Le garçon de 11 ans est conduit chaque jour à l'école avec une escorte du Secret Service, l'agence fédérale assurant la protection du dirigeant des États-Unis. Ivanka, qui elle est la plus connue des filles du milliardaire, s'est installée avec son mari, Jared Kushner, et leurs 3 enfants dans une luxueuse résidence de Washington, gardée jour et nuit. Le Secret Service assure des convois motorisés quand elle ou lui se rendent à la Maison Blanche ou au Café du Coin. Eric et Don, les deux fils Trump, qui gèrent l'empire immobilier du même nom, sont également protégés par le Secret Service, bien entendu. Il n'y a pas de raison qu'ils le savent en même temps. Y compris quand ils se déplacent à l'étranger avec une cohorte de gardes du corps reconnaissable à leur oreillette. Voilà. Un simple voyage d'affaires d'Eric Trump en janvier en Uruguay aurait ainsi coûté 100 000 dollars aux contribuables américains, dont on le sait, évidemment, les positions avantageuses et le confort financier dont ils sont tous nantis. Les deux frères ont également inauguré en février un hôtel à Vancouver avec leurs épouses et leurs sœurs, Tiffany, ouvert à Dubaï. Ah oui, récemment encore ouvert à Dubaï un parcours de golf. Peu avant, Eric Trump visitait un projet touristique en République dominicaine. Le mois dernier, Don, Eric et Ivanka Maintenant, on peut commencer à les appeler par leur prénom, hein, on commence à les connaître. On skiait dans les Rocheuses à Aspen, la fameuse station d'Aspen de la Jet Set. Alors là, c'était 100 agents qui étaient mobilisés pour leur sécurité. Quand tu vas faire un petit coup de ski dans les basses, eh ben évidemment que tu es accompagné par 100 de tes potes pour justement, si jamais, tu déchausses. Dernier voyage en date, celui de cette semaine, Eric Trump à Dublin, où a calculé CBS, le Secret Service, toujours lui, et ils sont quand même classe, a dépensé 4 000 $ en limousine, 11 000 $ en hébergement, et hop, quand on aime, on ne compte pas. Le nombre de personnes placées sous la responsabilité de l'agence d'élite a bondi de 40% par rapport à la normale, selon le New York Times. Je cite, « Ils sont totalement épuisés ». Fin de citation. A confié au journal le parlementaire Jason Chaffetz. Son collègue Elijah Cummings a lui évoqué, je cite, « une bicyclette dont on ne pourrait pas descendre ». Fin de citation. D'après une enquête récente, le fameux Secret Service, acronyme SS, est devenu l'agence fédérale américaine la moins attirante. Il a demandé, sans l'obtenir totalement, un budget, donc monsieur le président, de 60 millions de dollars pour l'année prochaine. Voilà, voilà. Alors, une dernière petite chose pour en finir vraiment avec ce jour de Pâques splendide. Qu'est-ce qu'il fait beau? Qu'est-ce qu'on est content? Les agents qui protègent Trump doivent louer, je dis bien, les agents doivent louer les locaux dans la tour Trump pour protéger Trump. Je trouve que c'est super cool, quoi. Sur la 5e avenue, où des voiturettes de golf leur sont mises à disposition quand le milliardaire président se trouve dans son palace de Mar-a-Lago, justement en Floride, dont on parlait tout à l'heure. Juste pour dire, Monsieur Trump, il a passé 7 week-ends sur 13 depuis sa prise de fonction. Ça va, un week-end sur deux en vacances, tes agents de protection, ils se louent leur chambre, histoire qu'ils te payent quand même un truc. Faut pas déconner, voilà. Rejoindre Mar-a-Lago, un édifice construit dans les années 20, entre une lagune et la mer, c'est pas le coin où on va tous quand même, hein. Ouais. Suppose une logistique compliquée, notamment des interruptions de circulation sur les axes routiers fréquentés de Palm Beach. D'ailleurs, un nouvel hélipad qui va être construit devrait améliorer les choses. À un moment donné, c'est juste sympa, quoi. Tu vois, je cite, le principal défi est la taille de ce complexe qui n'a pas été construit aux normes non utilisées pour protéger le président des États-Unis. Fin de citation, souligne toujours le même monsieur Riz. C'est le burn-out dans 2 secondes, hein, le mec, en fait. Le site n'est pas clôturé, il est ouvert au public, confirme à l'AFP Douglas Smith, ancien secrétaire adjoint du département de la sécurité intérieure. En comparaison, je cite, la résidence de villégiature officielle du président des États-Unis, Camp David, donc l'habituelle, la normale, hein, est isolée et bien plus facile à défendre, fin de citation, explique-t-il. Dans une région montagneuse, Camp David est accessible d'un courtage d'hélicoptère depuis la Maison-Blanche, à Mar-a-Lago, le service secret, le fameux Secret Service, épaulé par les forces du shérif local, mobilise de nombreux personnels, tandis que les gardes-côtes doivent déployer également des vedettes armées le long des deux rivages. Portant bien son nom, puisque le Secret Service ne chiffre pas les coûts du week-end à Mar-a-Lago, un voyage de Barack Obama en 2013 à Palm Beach avait coûté 3 millions de dollars. Donc là, on est bien au-dessus de ça. Hein. Donc juste pour vous dire où va l'argent des contribuables aux États-Unis. Mais tout rapprochement est hasardeux, avertit James Reese. On en termine avec lui. Citation, le budget en perpétuelle évolution et le Secret Service doit être flexible avec un président qui modifie les règles minute par minute. Fin de citation. Merci, monsieur James Reese. Voilà, ça c'était pour la blague du jour et le financement, l'état des finances aux États-Unis. J'ai encore un petit texte concernant du coup l'état des finances en France, puisque nous assistons, nous voisins de la France, en Suisse, à un spectacle assez amusant avec ces présidentielles en France où on en rit pour ne pas en pleurer, puisque les scandales financiers se succèdent et que l'on voit que tout le monde, enfin que nombre d'entre eux en tout cas, se permettent des largesses alors qu'ils tiennent un discours qui est juste à l'inverse et qu'ils... Enfin, on n'a pas envie de revenir là-dessus parce que c'est vraiment écœurant. Donc là aussi, mieux vaut en rire et effectivement peut-être se détourner une fois pour toutes du vote, qui sait, et agir différemment au sein de la société civile, comme ce repas solidaire par exemple ici, aux Grottes. Pour la petite anecdote, on en termine rapidement avec ça. 3 personnes ont été expulsées jeudi passé du meeting toulousain du candidat de la droite, Fillon, en raison, parce que ça c'est vraiment juste trop drôle aussi, d'un supposé manque d'enthousiasme. Alors, c'est une note de France 3, elle m'a fait tellement rire que je vais la lire telle qu'elle, quoi. Les 3 spectateurs ne sont en effet pas des sympathisants de l'ancien Premier ministre, certes. Simple curieux et pas encarté chez les Républicains, ils assurent s'être rendus à la réunion publique pour se forger une opinion sur François Fillon. petite parenthèse, et quand bien même, s'ils étaient venus là pour d'autres choses, voilà. Leur calme, alors attention, leur calme aurait toutefois intrigué l'équipe de campagne du candidat. Les trois refoulés l'assurent. Ils ont été expulsés du meeting par l'organisation du Zénith, non pas par l'organisation du Zénith, mais sur ordre de l'équipe de François Fillon. Interrogé par France 3 Occitanie, l'entourage du député de Paris justifie l'éviction des spectateurs de la sorte, je cite, « Les trois personnes se trouvaient dans un endroit dangereux pour la sécurité du candidat. Ils auraient effectivement une attitude de neutralité qui pouvait les rendre suspects. » Fin de citation. Donc, tu vois, tu te rends, t'écoutes, t'es neutre, du coup, clairement, t'es suspect. Et puis quand on dit suspect, c'est que t'es coupable, quoi. Excès de zèle, point d'interrogation, l'expulsion des trois spectateurs n'est peut-être pas étrangère à un récent incident, c'est vrai, il faut le dire, dans la campagne de l'ancien Premier ministre. Effectivement, le 6 avril dernier, François Fillon avait été enfariné par un jeune homme à son arrivée à un meeting à Strasbourg. Alors que l'ancien Premier ministre s'avançait vers la tribune pour prononcer un discours, un homme qui portait un t-shirt, je cite, les étudiants avec Fillon, fin de citation, pour se faire passer pour un militant, avait déversé sur le candidat un paquet rempli de farine avant de se faire plaquer au sol par les services de sécurité. On rappelle aussi la claque qu'avait pris Manuel Valls il y a de cela quelques mois. C'est vrai que voilà, c'est dans ce contexte comme ça d'escalade de la violence. En France, on prend des coups de farine, en Afghanistan, des méga-bombes. Et puis partout dans le monde, ben, t'as intérêt à veiller à ce que Trump soit pas derrière ta porte si tu veux pas que celle-ci explose. On en arrive au bout pour aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes, donc moi je vais d'ores et déjà remercier toute l'équipe de Libre Radio hein, qui est ici, indéfectiblement, toutes les semaines. La semaine prochaine, on sera de retour, je crois. Non, la semaine prochaine, on a également une émission un petit peu spéciale, mais on en reparlera. Si tu souhaites recevoir toutes ces informations, il te suffit de te rendre sur le site de Libre Radio, www.libradio.org, et là, tu peux t'inscrire à la newsletter. Nous allons encore citer le repas solidaire péruvien jusqu'à 20h ce soir et demain de 12h à 20h ici sur la place des Grottes, juste derrière la gare Cornavin à Genève. Viens-y, tiens-toi informé. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale. On va encore rien dévoiler. D'ici là, on se laisse avec quelques chansons, non sans omettre de remercier toute l'équipe de Fréquence Banane à Lausanne et le nouveau comité à Genève avec lesquels eh bien, nous nous sommes d'ores et déjà rencontrés, avec lesquels nous nous réjouissons de travailler ces prochains temps. Voilà. Bonne à toutes et tous. Bonne fête de Pâques. C'est clair. Ciao.